Le clivage, c'est bon, tout le monde
oui, filme tout.
En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle.
9h41, l'instant M, ça passe vite et ça en dit long.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Croix, une presse indépendante.
Information numérique.
Le nez sur l'écran internet.
On sort d'une séquence bruyante, des intellectuels qui invectivent, des éditorialistes qui s'offusquent, avec les régionales, aux politiques de monter le son. La race blanche de Nanine Morano dispute son impact médiatique à la figure de Marine Le Pen, dont la présence en une du JDD et le nombre d'invitations sur France Télévisions provoquent des remous. Leur point commun, à eux tous, un discours de transgression, le seul susceptible de capter l'attention des médias. Dans quelques minutes, peut-être si tout va bien, au téléphone, Christian Salmon, qui est essayiste et chercheur, qui est l'auteur de La cérémonie cannibale et des derniers jours de la Ve République, paru chez Fayard. Ce sera après l'actu et le rugby façon TF1 par Bruno Donnet. Salut Bruno.
Bonjour Sonia.
Ça va ?
Ça va, oui, vous me faites peur, je vous vois un petit peu inquiète. Là.
Pas du tout.
Le nez rivé sur la pendule et sur le téléphone de Christian Salmon.
Mais non, pas du tout. On va très bien y arriver, vous allez voir. De toute façon, vous êtes là, c'est l'essentiel.
L'instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Nous avons des preuves. Monsieur Lucas, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC, a bien appelé Vincent Bolloré pour demander la déprogrammation de ce film.
Dans l'actu, on retiendra cette info de nos confrères du Monde. L'un des rédacteurs-chefs du magazine spécial Investigation de Canal+ serait convoqué aujourd'hui par sa direction. Il s'agit de la case où devait être diffusée l'enquête sur le Crédit Mutuel, finalement déprogrammé. Curieux édito de notre confrère Luc Levaillant dans Libé ce matin, au prétexte qu'Élise Lucet pratique l'investigation et exige la transparence de ceux sur qui elle enquête, eh bien elle devrait faire de même et dévoiler son salaire. Elle s'y refuse. N'y a-t-il pas là grande confusion sur la notion de transparence? Lorsque cache investigation enquête, c'est qu'il y a affaire, c'est qu'il y a scandale, tromperie, malversation. Or, les revenus d'Élise Lucet ne soulèvent, à mon sens, aucun problème. Au nom de quoi devrait-elle donc déballer ce qu'elle gagne et ce qu'elle possède ? Voilà, et Luc Levaillant se prête au jeu, lui. On sait qu'il gagne 4000 euros à Libé, qu'il possède une Volvo Break. Et heureusement, il met beaucoup d'humour dans tout ça, parce que sinon, ce serait la terreur. Samedi soir, Bruno Donnet, vous étiez comme 12 millions d'entre nous.
Absolument.
Vissé devant le rugby France-Nouvelle-Zélande. Vous êtes l'un des rares ce matin à vous montrer soulagé.
C'est vrai Sonia, je dois l'avouer, j'ai poussé un grand ouf de soulagement dans mon canapé samedi soir. Alors pourquoi ? Eh bien n'allez pas croire que du sang de kiwi coule dans mes veines ou que je déteste le rugby, non c'est tout le contraire, j'adore ça, seulement voilà, j'ai souffert le martyr depuis le début de la Coupe du Monde à cause des commentaires du consultant de TF1, j'ai nommé Bernard Laporte.
Je me dis surtout, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi sommes-nous arrivés à cela.
Voilà, alors Bernard a raison, hein. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi en suis-je arrivé à un tel niveau de saturation ? Eh bien d'abord, parce que Laporte confond systématiquement analyse avec la palissade.
Il ne peut pas jouer sans ballon.
Voilà, ça c'est indéniable. Il passe son temps à défoncer des portes ouvertes. Et comme quand c'est rugueux, c'est pas lisse, eh ben, il commence toutes ses phrases par « on le sait ».
On le sait, il ne faut pas perdre le ballon contre eux. Ça quoi ? Derrière, ça fait toujours mal.
Eh oui, un commentaire de Bernard Laporte, ça fait toujours mal, surtout aux oreilles, parce que c'est un peu le haka faucon du rugby. Il rappelle des évidences dès qu'il ouvre la bouche, ou alors il souligne un truc qui n'a échappé à absolument personne. Écoutez par exemple ce qu'il a dit à 5 minutes de la fin du match, alors qu'il y avait tout de même 62-13 en faveur des Blacks.
Je trouve les Blacks plus frais que nous, Christian. Ou alors, il faut que je change de lunettes.
Alors ces lunettes, parlons-en, hein, parce qu'elles ne marchent pas très bien non plus. Ce qui fait que Bernard Laporte est aussi une sorte de boussole, mais qui indique le sud, si vous voulez. Dès qu'il prédit quelque chose, eh ben, c'est le contraire qui se produit. Là, par exemple, on est à la 26e minute du match. Les Néo-Zélandais sont à 30 mètres des poteaux français, mais il n'y a pas de danger.
Oui, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés.
Un petit peu moins maintenant, avec Conrad Smith. Il est pris. Nonou, attention à ce joueur. Ça va aller au bout. Eh oui, ça va aller au bout, Bernard.
Ah ouais, pourtant, je ne sentais aucun danger, Christian.
Voilà, c'est ça le problème. Hein. Le type a un flair incroyable et c'est comme ça à tout bout de champ. Écoutez par exemple ce qu'il a dit au tout début de la deuxième mi-temps, alors que la France était déjà menée 29-13.
Mais c'est pas fini. Il peut tout arriver. J'ai vu des Blacks en première mi-temps, mi-figue de mi-raisin.
Voilà, alors ça, des blacks mi-figue mi-raisin, bon, ça veut absolument rien dire, hein, mais c'est pas grave. C'est la faconde du sud-ouest, l'accent qui chante, le truc totalement caricatural que la télé croit devoir nous servir dès qu'elle diffuse du rugby. Du coup, la porte, eh ben, il se vautre là-dedans ad libitum et une fois de temps en temps, eh ben, il fait quand même une bonne vanne.
Même là, on se fait blackbouler.
Le problème, eh ben, c'est qu'il s'en rend pas compte.
Blackbouler, vous venez d'employer le mot juste.
Je l'ai pas fait exprès.
Voilà, car en plus d'être la palisse, Bernard Laporte, c'est également Monsieur Jourdain. Les rares fois où il dit quelque chose d'astucieux, c'est malgré lui.
Voilà, et là...
On appelle ça une fessée.
Voilà, on appelle ça une fessée.
C'est le mot de la fin pour Bernard. Ouais.
C'est ça, c'est votre papier. C'est une fessée. Bien, alors, comme je n'ai pas de Christian sous la main, eh bien je vous propose d'écouter un petit peu de musique. Après tout, ça fait pas de mal pour démarrer la journée. Noir, c'était Down dans l'Instant M sur France Inter à 9h48.
L'Instant M avec Sonia De Villers.
Vous dites la France se meurt, la France est morte, nos élites crachent sur sa tombe et piétinent son cadavre fumant. Et les Français, ils achètent 5000 exemplaires par jour depuis quelques jours. Mm-hmm. Quel est votre sentiment? Comment vous le vivez-vous?
Écoutez, je le vis comme un plébiscite des idées que je défends, des convictions que j'ai, du diagnostic que je pose.
Et comme l'effet direct d'une médiatisation exceptionnelle, c'était il y a un an tout pile. Hein. Souvenez-vous, Éric Zemmour avait bénéficié d'un nombre phénoménal de une de télé et de radio pour la promotion du suicide français. Todd Finkielkraut, Onfray ont pris le relais. Tous les médias se sont rués sur les propos de Nadine Morano pendant 15 jours. Marine Le Pen en une du JDD, les journalistes ont voté une motion de censure à l'égard de leur direction pour cette une simplificatrice et plutôt enjolivée. France 3 obligée de déprogrammer Marine Le Pen de son JT du week-end, car déjà invitée de France 5 la semaine dernière et encore invitée de France 2 dans Des Paroles et des Actes cette semaine. Bonjour Christian Salmon, enfin je vous entends.
Bonjour, moi aussi.
Alors je résume votre analyse publiée sur le site de Mediapart. Ce n'est pas une dérive droitière, dites-vous, c'est une dérive médiatique. C'est comme le catch, parce que vous en revenez à Roland Barthes, c'est comme le catch. Ce n'est pas un sport ignoble et violent, c'est un spectacle. Il faut réfléchir en logique de spectacle. Eh ben voilà, on vous a perdu.
J'ai eu du bol.
Voilà, alors heureusement que j'ai Bruno Donnet à mes côtés, qui hésitait entre deux après-coups ce matin, parce qu'il y a une autre séquence de télévision qui vous a frappé cette semaine.
Oui, j'ai vu un reportage assez remarquable dans le petit journal de Canal+, je ne me souviens plus du jour, mardi ou mercredi, un énième reportage consacré à Nadine Morano. Alors au début, je me suis dit, bon, waouh, on en a un peu soupé de Nadine Morano et de sa race blanche, mais c'était assez malin, parce que il s'appelle Hugo Clément. Clément, le garçon qui est allé faire ce reportage, il a tenté de montrer qui étaient les gens qui venaient au meeting de Nadine Morano. Alors c'est malin parce que dans les médias, vous savez, quand on s'intéresse à la télévision par exemple, souvent, on se dit que la pub parle mieux des programmes que les programmes eux-mêmes.
C'est ça, parce que en analysant les annonceurs, voilà, on peut bien identifier le public.
Exactement. Alors là, c'était malin parce que le type a posé juste une question aux gens qui étaient venus écouter Nadine Morano. Il leur a posé la question suivante. Quelle différence y a-t-il, selon vous, entre la pensée de Nadine Morano et celle de Marine Le Pen? Et il n'y a pas un gars qui était foutu de répondre à sa question. C'est
même
QFD.
Capacité, en tout cas, à capter l'attention médiatique et à être dans le spectacle. Christian Salmon, vous êtes donc revenu parmi nous.
Oui, absolument.
Ah ben voilà, vous êtes de retour sur France Inter. J'aimerais que vous nous expliquiez en quoi tout cela traduit surtout une dérive médiatique plutôt qu'une dérive politique.
Bah, si vous voulez, la logique de toutes ces interventions est est une logique de l'audimat, de l'audience, comme on le sait. Mais la question aujourd'hui, c'est que l'information, l'attention des auditeurs ou des téléspectateurs fait l'objet d'une lutte acharnée pour le contrôle de ces attentions, pour la captation de ces attentions, et que donc dans cette logique économique que j'appelle une économie des pulsions et des transgressions, c'est celui qui commet la plus grande transgression qui a la capacité de capter l'attention. Donc il y a une sorte de montée aux extrêmes, de surenchère permanente pour capter l'attention en commettant des transgressions de plus en plus grandes. Et c'est cette pente-là, cette pente de l'espace médiatique qui fait que déferlent les opinions les plus régressives, les idéologies les plus réactionnaires, parce que ce sont ces mots d'ordre, ces atteintes racistes qui choquent, qui font transgression et qui donc captent l'attention.
Voilà, parce qu'en fait, vous le dites, ce n'est pas l'information qui est rare aujourd'hui. L'information, elle est surabondante. Finalement, c'est l'attention qui est rare et chère. Et qu'est-ce qui capte l'attention? C'est l'incivilité. Vous dites, on est dans une période d'incivilité médiatique. C'est très intéressant. Et que cette incivilité médiatique, on la transforme, on l'a fait passer pour une bataille des idées. Mais quelle bataille des idées, Christian Salmon ?
Oui, c'est tout le problème. Hein. C'est que vous avez cité un certain nombre de noms, de Alain Finkielkraut à Michel Onfray, en passant par Éric Zemmour, le romancier Michel Houellebecq, ou simplement des hommes politiques avides de présence médiatique comme Nadine Morano. Mais finalement, tous ces personnages sont assez différents. Leur production, que ce soit littéraire ou médiatique, n'est pas comparable. Mais ce qui est frappant, c'est cette pente. C'est-à-dire que de différents points de vue, de différents lieux d'énonciation, c'est la même chanson finalement qui défère, qui est la chanson de la grande transgression. Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce que on laisse aller les choses comme ça, c'est-à-dire que vous savez, Baudelaire disait que les choses continuent comme ça, voilà la catastrophe. Eh bien, c'est bien la question qu'on peut se poser, et donc la question qui est posée au CSA, mais aussi aux journalistes, à toutes les personnes qui collaborent à l'espace médiatique, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette montée aux extrêmes de la transgression et pour recréer à l'intérieur de l'espace public de télécommunication, mais aussi au sein des chaînes privées, mais aussi au sein des pages débat des journaux. Qu'est-ce qu'on fait pour enrayer cette montée aux extrêmes?
Alors justement, Christian Salmon, vous dites autre chose de très intéressant. Vous dites, on a l'impression que c'est une période de débat extrêmement vive, mais en réalité, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que les médias détruisent l'idée même de délibération.
Oui, ben, c'est-à-dire que cette logique, plus que le format du talk-show, hein, c'est la logique du talk-show que je remets en question, que je discute. En fait, cette logique du talk-show vise, pour ne pas les citer, on pense à On n'est pas couché, à d'autres émissions de ce genre-là. Qu'est-ce qui fait que les spectateurs vont la regarder? C'est le clash, hein. Vous parliez du catch. Je parlais du catch qui est dans le catch. Tout est faux, en fait. Tout est simulé. Dans les émissions de télévision, c'est un peu la même chose. Dans ces talk-shows, tout est simulé, y compris le débat. C'est-à-dire que, pour un bon mot, la répartie compte plus que l'élaboration d'une pensée. L'écoute disparaît au profit de l'interruption. Bref, une sorte d'organisation du tohu-bohu qui rameute le chaland, le badaud qui passe par là.
Mais est-ce qu'il n'y a pas là un risque, Christian Salmon, à caricaturer les formats médiatiques? Parce que il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas couché. C'est une heure de discussion menée quand même par un écrivain, une journaliste d'assez bonne tenue. On a le temps de parler, on a le temps de s'écouter. Et qu'au-delà de ces talk-shows, tous les gens dont on a parlé sont régulièrement invités sur France Inter, ont leur tribune sur France Culture, font l'objet d'interviews très longues dans la presse magazine ou dans la presse quotidienne. Donc on ne peut pas tout réduire au talk show.
Non, mais c'est pour ça que je parlais de logique du talk show plutôt que de
c'est
format.
Ça.
Hein.
Oui, oui.
C'est-à-dire que les journaux qui font la une sur tel ou tel personnage sont aussi en quête d'audience. C'est-à-dire que c'est toute l'offre médiatique qui est soumise à cette...
Logique d'impact, en fait.
Oui, à cette économie de l'attention qui fait que c'est l'impact qui compte, c'est la transgression, etc. Donc la question, c'est comment on peut recréer au sein de l'espace médiatique un espace de délibération. Comment on peut inviter des gens qui ne font pas des chiffres de vente extraordinaires? Vous avez par exemple aujourd'hui, je le cite pour qu'on entende son nom une fois, un historien qui est aussi au Collège de France, qui produit des ouvrages très intéressants, Patrick Boucheron, qui n'est jamais invité dans des émissions comme celle dont vous parliez. Donc il y a une question à la fois du choix des invités,
y a et
une
du traitement,
du format, et il y a aussi une question de la manière, de l'acoustique du débat. C'est-à-dire que comment on écoute certains personnages. J'étais en Grèce au moment du référendum et j'ai interviewé le directeur d'une radio qui m'a offert un t-shirt que j'avais mis ce matin pour vous, et sur ce t-shirt est écrit en grec « La radio qui écoute ». Vous voyez, les médias ne sont pas seulement des lieux d'énonciation, des lieux pour frapper l'attention, pour capter le passant, ce sont aussi des lieux où l'on écoute, où on produit une certaine écoute, une acoustique, et cette acoustique, c'est... rappelez-vous l'agora des Grecs, ben aujourd'hui ça se passe par les médias. Cette acoustique, c'est le cœur même de la démocratie.
Merci.
Si on détruit cette acoustique, au-delà, on détruit la démocratie, et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment.
Merci beaucoup Christian Salmon, ce fut très court et très bref, mais on vous réinvitera pour avoir une vraie discussion.
Et pour voir votre t-shirt.
Un petit peu plus dans la longueur et pour voir votre t-shirt. Merci et bravo d'avoir quand même réussi à rejoindre France Inter par un moyen ou par un autre.